France Musique.
Carrefour des Amériques.
Une coproduction des médias francophones publics.
Mexico, Paris, La Havane, avec un boogie-woogie et une électre cubaine. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Carrefour des Amériques. Et pour nous accueillir, eh bien, c'est une chanson qu'un film chinois de Hong Kong a remise à la mode en l'an 2000. Le film, c'est In the Mood for Love, avec ce thème cubain qui le parcourt, Quizás, Quizás. En réalité, cette chanson a été un des grands succès de la radio cubaine en 1946, et on la doit au jeune Osvaldo Farrés qui animait El Bar Melódico, le bar de la chanson sur l'une des meilleures radios cubaines. Farrés était né dans une bourgade de province en 1902. Il avait composé ses premiers succès à l'âge de 39 ans. Mais c'est Quizás, Quizás, peut-être, peut-être, qui est en 1946 son premier succès international. Cette chanson, il l'avait écrite pour son ami mexicain, le ténor favori des Cubains, Pedro Vargas, qu'il avait créé au Mexique avant de la faire connaître à Hollywood, bien avant Nat King Cole qui chantait dans la bande sonore du film chinois. Chaque fois que je te demande où, quand et comment, tu me réponds toujours « peut-être, peut-être ». Mais les jours passent et c'est désespérant. Pedro Vargas, comme à la radio cubaine en 1946.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizá, quizá, quizá. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando quizá, quizá, quizá. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando quizá, quizá, quizá.
Pedro Vargas dans cette version originale de ce fameux Quizás, Quizás que nous avons tous fredonné un jour. Le ton est donné pour raconter l'année 1947 à La Havane, car c'est une année faste pour les concerts de musique classique et pour les récitals de Pro Arte Musical. En avril, le violoniste français Zino Francescatti donne deux récitals avec son pianiste Arthur Balsam au théâtre Auditorium. Il a alors 45 ans, c'est son deuxième récital à Cuba. 5 ans auparavant, Francescatti avait fait une tournée dans toute l'Amérique du Sud. À Buenos Aires, il avait eu tellement de succès dans le concerto numéro 1 de Paganini qu'à la sortie de son hôtel, la police devait le protéger de ses admirateurs. Il rentre en France en 1939, mais c'est pour repartir immédiatement aux États-Unis pour une série de récitals. Il fait son véritable début américain avec l'Orchestre Philharmonique de New York en automne, dans le concerto numéro 1 de Paganini à nouveau. C'est en novembre 1940 que la famille Casazzu s'établit en Amérique, et cette fois pour y demeurer plusieurs années. En 1947, à La Havane, il a choisi une partita de Bach, les sonates de Franck et de Fauré, le duo concertant de Stravinsky, la suite de Millau et deux de ses arrangements. Une des scènes de La Forêt de Schumann et l'air di Tanti Palpiti de l'opéra Tancrède de Rossini. Un air qu'il jouait partout avec le même succès. Zino Francescatti et Arthur Balsam l'ont enregistré 2 ans après le concert de La Havane. Thank you. juste avant ce récital de Zino Francescatti et Arthur Balsam, un petit vent de folie avait soufflé sur la Havane. Toute la ville s'était mise à danser le boogie-woogie. Après le concert de Maurice Rocco, le roi du boogie-woogie, au théâtre Campo Amor, le 18 mars. Une musique qui accompagne la joie ressentie quand on lit les premières pages des journaux de ce mois de mars. Lucky Luciano, le mafieux italien qui contrôlait depuis Cuba la Cosa Nostra aux États-Unis, a été arrêté à la Havane et déporté en Italie. Il était depuis l'hiver à Cuba, soi-disant pour préparer un concert de Frank Sinatra, et ce dernier d'ailleurs avait fait le voyage. En réalité, il préparait la fameuse conférence de la Havane avec tous les mafieux de l'île, une conférence qui avait eu lieu le 22 décembre 1946. Les journaux havanais, des plus conservateurs aux plus progressistes, avaient dénoncé la complicité passive ou active de plusieurs hommes politiques cubains. Le gouvernement réagit donc par cette arrestation. Et c'est un coup d'arrêt, pour l'instant, à la gangrène mafieuse italo-américaine dans sa base arrière de Cuba. L'arrestation est célébrée dans tout le pays, place donc au boogie-woogie de Maurice Rocco. Cuba, on le sait, on franchit sans problème toutes les frontières musicales, alors passer du boogie-woogie à l'opéra, il n'y a rien de plus naturel. En cette année 1947, Regina Resnick, la nouvelle gloire du Metropolitan Opera, donne un récital au théâtre Auditorium. Elle vient de réussir haut la main les auditions du grand opéra new-yorkais et elle a même remplacé au pied levé la grande Zenka Milanov malade dans le rôle de Léonore du Trouvère de Verdi. Un défi qui lui vaut une ovation du public. Dans ses récitals en Amérique latine, Regina Resnick aimait bien interpréter des mélodies hispaniques ou latino-américaines et bien sûr un air de Carmen de Georges Bizet. Nul doute que dans son enfance, passée dans le Bronx à New York, Regina Resnick avait baigné très tôt dans la culture hispanique. En tout cas, ce rôle lui colle à la peau. La voici enregistrée sur la scène du Grand Théâtre de Genève en 1962 avec Thomas Skippers à la direction, avec la fougue qu'on lui connaît. Thank you. Genève, la Carmen de Regina Resnik avec ses compagnes Georgette Spanelis et Yvonne Minton et Thomas Skippers à la baguette. À La Havane, en 1947, le musicien noir Arsenio Rodriguez, l'aveugle merveilleux comme on l'appelait, décide de tenter à New York une opération des yeux. Malheureusement, le chirurgien l'informe que son nerf optique est détruit et qu'il ne récupérera jamais la vue. À son retour à La Havane, totalement désespéré, il songe à arrêter sa carrière. Mais la tendresse du public cubain à son égard lui donne la force de continuer à chanter. Il interprète alors « La vida es un sueño ». Rien n'est vrai en ce monde et la vie n'est qu'un songe. Le public l'ovationne. « Je remercie le Seigneur, dit-il alors, de m'avoir permis de surpasser ma douleur en composant ma dernière chanson « Vuelvo a la vida »,« Je renais à la vie ». Ce sera son dernier disque enregistré à Cuba avant son départ définitif en 1952 à New York. Arsenio Rodriguez est mort à Los Angeles en 1970.
Para ser feliz, no me siento solo, ya te tengo a ti. Muchas gracias a nuestro Señor por haberse apiadado de mi cruel dolor. No creí pasado. Ahora vuelvo a la vida. La
En 1947, les ballettomanes avanais affluent au Palais des Sports lors des représentations du ballet français des solistes de l'Opéra de Paris. En mai, c'est le printemps de la danse à La Havane, avec le ballet de Proarte d'Alberto Alonso. Les 27 et 28 mai est créé le premier ballet moderne dansé par cette compagnie d'ordinaire si classique. C'est la danseuse étoile Alicia Alonso qui l'interprète. Antes del Alba, avant l'aube, c'est la première tentative d'évoquer dans un ballet cubain la vie urbaine. L'action se passe dans un quartier populaire de La Havane. Une jeune veuve, gravement malade, intriguée par le bruit d'une fête dans la cour de son immeuble, c'est la période du carnaval, observe deux jeunes amants qui lui font revivre son propre passé, des souvenirs qui lui provoquent d'étranges hallucinations. Elle se sait condamnée et elle met fin à ses jours. Le public conservateur habitué au tutu et à la danse sur pointe est plutôt désarçonné, mais c'est un gros succès. La musique très influencée par Mio et Stravinsky est basée sur des thèmes afro-cubains, la guaracha, la conga, la tumba. On la doit à Hilario González qui a alors 27 ans et s'apprête à partir à Caracas où il va rejoindre l'écrivain Alejo Carpentier et où il va résider jusqu'en 1960. Le ballet Antes del Alma a été en 1947 le précurseur du répertoire du futur ballet de danse moderne de Cuba en 1960.
Thank you.
Hilario González, Danza de la Negra Triste, Victor Díaz Hurtado au piano. Le besoin de porter à la scène la vie quotidienne et les problèmes sociaux correspond à l'époque troublée de la fin des années 40. Le président Grau a supprimé les missions éducatives mises en place par Batista dans les campagnes et les quartiers défavorisés, afin de construire plus de bâtiments scolaires. Mais la réalisation n'est pas à la hauteur de son ambition, il ne parvient pas à éradiquer totalement l'analphabétisme. Dans le pays se succèdent alors grèves, agitations sociales. Le Parti communiste en plus déclare qu'il veut instaurer un régime de type soviétique à Cuba, ce qui le rend bien sûr très impopulaire, provoque d'importantes manifestations contre lui à travers tout le pays, comme celle des 20 000 travailleurs réunis au Parc Central lors du congrès ouvrier de 1947. Dans cette atmosphère bien agitée, naît une musique populaire, comme une sorte d'antidote en somme, qui a trouvé refuge dans des cabarets plus petits et dans les clubs sociaux de quartier, les fameux social clubs. On y chante à mi-voix, des confidences amoureuses en toute intimité, ce que le microphone permet beaucoup mieux qu'autrefois. C'est le jeune mulâtre, José Antonio Méndez, qui lance vraiment ce mouvement qu'on a appelé « El Feeling », adaptation du mot anglais « feeling ». Son premier succès en 1947, c'est « La Gloria eres tú », le paradis c'est toi. Il est enregistré ici dans un cabaret de Mexico et on songe parfois en l'entendant aux premières bossa nova brésiliennes apparues 10 ans plus tard.
Dos horas que hago más. Eres mi bien lo que me tiene estasiado. Por qué negar que estoy de ti enamorado. De tu dulce alma. Que es toda sentimiento. De esos ocasos negros, de un raro fulgor, que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto. Eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo. Que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo de Jesús, si alma mía, la gloria eres tú.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
Le Cubain José Antonio Méndez enregistré ici à Mexico. À Cuba, la vie théâtrale est en pleine expansion. La Société Pro Arte a donné le signal à La Havane en créant la première école d'art dramatique en 1931. Plusieurs jeunes compagnies suivent son exemple et les auteurs français et américains sont très prisés, comme Albert Camus lors d'une lecture commentée de Caligula, Jean Giraudoux avec Electre, Jean Cocteau avec Les Parents Terribles. En fin d'année, la Société des Amis de la Culture Française rend un hommage à André Gide, prix Nobel de littérature, en 1947. C'est aussi cette année-là la création à Cuba de la Ménagerie de verre de Tennessee Williams, suivie de Un tramway nommé Désir un an plus tard. Tennessee Williams venait souvent à Cuba depuis sa résidence de Key West et il aimait beaucoup les mises en scène de ses œuvres à La Havane. Durant l'été et l'automne, La Direction nationale de la culture a dressé ses tréteaux sur la place de la cathédrale, où l'on donne des concerts, des représentations théâtrales, comme les pièces espagnoles de Calderón et de Cervantes, dans lesquelles la musique tient une grande place. En juillet, dans le cadre de l'Université d'été de La Havane, débute le cours d'ethnologie et de folklore donné par le compositeur Argeliers León, passionné de musique populaire cubaine. Il vient d'ailleurs de composer l'une de ses plus belles œuvres cette année-là, la sonate numéro 3, en l'honneur de la Vierge du village du Cobre, patronne de Cuba.
Thank you.
José Antonio Méndez Ferrer dirigeait ici la Camerata de l'Institut supérieur d'art de La Havane dans la sonate numéro 3 « La Vierge du Cobre » de Argelias León. Il est temps à présent que le théâtre cubain s'affirme sur les scènes havanaises. Eh bien, ce sera en 1948. On le doit à l'écrivain Virgilio Piñera, grand ami de Lessa Malima. Son premier chef-d'œuvre dramatique, Electra Garrigo, est créé à La Havane le 23 octobre de cette même année. Le thème d'Electre, on le voit, est dans l'air du temps. L'Electre cubaine est transposée dans une Havane contemporaine en proie à ses démons. L'effroyable fatalité qui pèse sur cette île, cernée par la mer de tous côtés, cette société matriarcale, machiste, dont il est difficile de s'affranchir. Dans la pièce se mêlent des scènes burlesques dignes d'un feuilleton télévisé où le langage de la rue succède à des stances de grandes tragédies. Et dans cette famille d'Electra Garrigo, Agamemnon est un vieux patriarche poltron qui passe son temps à fuir son épouse Clytemnestre. Quant à Clytemnestre, elle attend le retour de son fils, Oreste. Elle fait même tous les cinémas de La Havane pour voir des films où des mères pleurent leur fils qui s'en est allé. Dans la scène qui suit, enregistrée à La Havane en 2011, Clytemnestre, hantée par la prédiction de l'oracle concernant sa propre mort, est devenue une adepte de la santeria afro-cubaine. Elle a même un vieux coq qu'elle a baptisé Agamemnon et elle le sacrifie lors d'un rituel afro-cubain au rythme des tambours bata. Dans la pièce Electra Garrigo, il y a aussi un chœur antique qui chante des strophes de la populaire Guajira Guantanamera. La Guantanamera qui accompagnait et commentait déjà des faits divers sanglants à la radio. Dans la pièce, la Guantanamera commente en l'occurrence la mort annoncée de Clytemnestre. La presse annonce même que la fille Garrigo, Electre, s'est suicidée et que Oreste, qui est ingénieur dans une mine d'Australie, a perdu la vie. De fausses rumeurs, bien sûr, les commérages cubains habituels. Non, ils sont tous bien vivants et Oreste réapparaît. Quant à Clytemnestre, elle ne va pas mourir étranglée. Electre demande à Oreste de la tuer en lui faisant manger une papaye empoisonnée, ce qui fait rire le public car en cubain la papaye se dit la fruta bomba, le fruit bombe. On est déjà dans le théâtre de l'absurde, bien avant l'heure. Et à la fin de l'œuvre, la Guantanamera résonne bien déglinguée. Avec Electra Garrigo, Virgilio Piñera a ouvert le chemin du grand théâtre cubain. De plus, il a donné à la musique un rôle important au théâtre. De grands compositeurs ont écrit pour Electra Garrigo, à commencer par son neveu, Juan Piñera, lors d'une reprise en 1986, quand le gouvernement a enfin levé l'interdiction de représenter la pièce, jugée longtemps trop peu révolutionnaire, décadente et subversive. Juan Piñera d'ailleurs compose actuellement un opéra sur le texte de son oncle. À la toute fin de l'œuvre, alors que le meurtre est consommé, Electre demande à son frère de partir et elle lui ouvre la porte. Mais pour elle-même, Electre ne trouve qu'une porte fermée, la porte Electra.
Que devo hacer, Electra? Que devo hacer?
Partir.
Siempre se debe partir. ¡Vamos! ¡Partir, Oreste! ¡Partir!
Les scènes de la pièce Electra Garrigo étaient interprétées par le Théâtre de la Lune de Cuba lors d'une représentation en 2011. À l'instant, c'était le final du dernier mouvement du concerto pour piano, vent et percussion de José Ardévol, Ninovska Fernández Brito au piano et l'ensemble Notre Temps dirigé par Gonzalo Romeo. Avec Virgilio Piñera, le théâtre écrit à Cuba a pris son envol. Pendant ce temps, on n'oublie pas le boogie-woogie, on le danse partout. Et la danse fait de curieux adeptes à la Havane. Cette fois, il ne s'agit plus de théâtre de l'absurde, mais de radio de l'absurde. C'est en effet une pétulante havanaise chanteuse et danseuse de flamenco qui s'empare du boogie-woogie. Elle s'appelle Obdulia Breijo et tout le monde l'appelle à Cuba la Sevillanita, la petite Sévillane. Elle chante le boogie-woogie façon flamenco et l'appelle le boogie-va. C'est-à-dire, en avant le boogie en espagnol, une sorte de petit pied de nez au boogie-woogie nord-américain. Elle est enregistrée ici lors d'une émission publique à la radio CMQ. C'est le présentateur vedette, Rolando Ochoa, qui annonce son entrée sur le plateau avec l'humour décapant qui a fait sa réputation.
Y ahora, la radiocadena Refritos de la emisora de Rolando Ochoa presenta a su artista exclusiva, Obdulia Breijo, la sevillanita, que canta para ustedes el Boogie Va. Este número se lo dedicamos a los oyentes de la bodega La Alpargata Malteada de Luyanó, a la familia Rocafort de La Víbora y a los oyentes de la bodega La Primera de Pelayo Reformado del reparto Lapton. Y recuerden que no es lo mismo chivar una mata que matar una chiva.
On ne respecte décidément plus rien, chante Obdulia Breijo, puisque même les gitans parlent anglais et dansent le boogie va dans les grottes de Grenade. Comme le dit le présentateur, Obdulia Breijo, c'est une artiste cubaine explosive.
Ahora los nietos de Faraón tan solo viajan en avión. Campamentos no ves alzar, ya los hoteles van a parar, ya los gitanos no bailan el popular garrotín, como se baila en las cuevas del Albaicín. Ya los gitanos hablan inglés y a todos dicen yes, y una gitana modernista inventó el baile del boogie va. Hoy se baila el boogie va en las cuevas de Granada. Pero dale, por favor, que por nuestra distinción dicen toda la nación donde la raza no tenemos pa' comer, no tenemos pa' beber, pero vamos a bailar con el boogie boogie boom, con el boogie boogie be, con el boogie boogie va. Los gitanos muy finos son, y si te pisan dicen perdón, las billeteras te sacan ya, con elegancia y urbanía, ya no se ponen la blusa cuando van en sociedad, algunos van de levita o de galera y fra, cambian el rico fino jerez por whisky escocés, y un gitanito que a mí me vio de mi figura se enamoró. Hoy se baila el boogie va en las cuevas de Granada, pero da gusto saber que por nuestra distinción dicen toda la nación son de la raza calé. No tenemos pa' comer, no tenemos pa' beber, pero vamos a bailar con el boogie boogie boo, con el boogie boogie be, con el boogie boogie va.
Toute l'ambiance dans une radio cubaine à la fin des années 40. Le boogie va est bien cubano-espagnol. Mais évidemment, quand on parle de boogie-woogie, on revient un peu aux États-Unis. Aux États-Unis où on retrouve l'amoureux de Cuba qu'a toujours été Ernest Hemingway. Ernest Hemingway avait résidé régulièrement à Cuba entre 1942 et 1945. Cette année-là, il vient de rencontrer sa quatrième épouse, Mary Welsh. Tous deux se retrouvent à la vigie à la sortie de la Havane en 1946 et c'est là qu'il écrit Le vieil homme et la mer, qu'il termine en 1951. Quand il reçoit le prix Nobel, 3 années plus tard, il décide de déposer sa médaille au sanctuaire de la Vierge de la Charité dans le village du Cobre, du Cuivre, non loin de Santiago de Cuba. Le pape avait décrété en 1946 que cette Vierge était bien la patronne de Cuba. Une Vierge qui, selon l'ancienne légende, serait apparue en mer à 3 pêcheurs, un noir, un indien et un créole. C'était au XVIIe siècle et la statuette de cette Vierge a été transportée dans un village de la montagne près d'une exploitation de mines de cuivre. C'est ainsi qu'a été érigée une basilique à la Vierge de la Charité dans le village du Cuivre, El Cobre. Le culte de la Virgen del Cobre a longtemps été banni par les autorités communistes, mais il y a toujours eu des pèlerins, et aujourd'hui plus que jamais. On voit à nouveau sur les routes des files de gens de tous âges et de toutes couleurs qui se rendent au Cobre. Dans la religion syncrétique de la Santeria, la Vierge du Cobre a son double afro-cubain, Oshun, la déesse des rivières. La sonate numéro 2 à la Virgen del Cobre de Argeliers León, Ulises Hernández au piano, la Camerata de l'Institut supérieur d'art de La Havane, dirigée par José Antonio Méndez. Et la boucle va se boucler, puisqu'on va se quitter avec la chanson Quizás, Quizás, qui avait débuté ce chapitre, mais cette fois dans la version la plus connue, celle de Nat King Cole, enregistrée en 1958 par l'orchestre d'Armando Romeo à Cuba et par Nat King Cole en re-recording à Los Angeles.
Siempre que te pregunto que cuando, como y donde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando quizás, 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 quizás.
Qu'il est doux de se quitter avec Nat King Cole, mais bien sûr pour se retrouver dans le prochain Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Guillaume Ledu, une émission que l'on peut écouter et réécouter en podcast.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.